RFI, minuit en temps universel, 2h du matin à Paris, c'est l'heure de votre journal.
Fabrice Le Grillet.
La tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe et ce sont des milliards de dollars de contrats qui ont été décrochés pour les États-Unis. Une tournée qui se poursuit. Les détails dans un instant. Pas de pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine, mais plutôt des réunions trilatérales prévues ce vendredi à Istanbul. Les différentes parties ne seront pas autour d'une même table. Aucune avancée donc. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de ne pas prendre ces discussions au sérieux. Le Kremlin lui répond très sèchement. Vous l'entendrez avec les mots de Sergueï Lavrov dans ce journal. Dans l'actualité aussi, la Belgique qui décide de mettre un stop à sa sortie du nucléaire et le Festival de Cannes qui se poursuit avec en compétition le film Dossier 137, un retour sur la crise des Gilets jaunes qui a secoué la France. Une tournée historique, ce sont les mots de Donald Trump, le président américain qui fait ses comptes après 3 jours dans les pays du Golfe. Aviation, intelligence artificielle, armement, dans de nombreux secteurs, c'est une pluie de contrats que viennent de décrocher les États-Unis. Alexis Bédu.
Le jackpot était prévisible, la tournée de Donald Trump dans les monarchies du Golfe a tenu ses promesses. Elle s'est achevée ce jeudi soir par un bouquet final de contrats aux Émirats Arabes Unis. Ils investiront 1400 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 10 prochaines années, accord notamment pour l'importation de 500 000 puces par an, fabriquées par le géant américain Nvidia, haute technologie ultra stratégique pour le développement de l'intelligence artificielle, un secteur clé pour la diversification de l'économie émirienne. Avant Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite avait promis quelques 600 milliards de dollars d'investissement et de commandes aux États-Unis, des contrats comme s'il en pleuvait aussi à Doha, où l'avionneur américain Boeing décroche une gigantesque commande de la compagnie Qatar Airways pour 200 milliards de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis mais difficilement vérifiables sur le long terme, même si le bilan de cette tournée est largement positif pour Donald Trump. L'accumulation de ces montants faramineux relève en bonne partie aussi de l'affichage politique.
Voilà pour les contrats décrochés par le président américain dans les pays du Golfe. Donald Trump, qui s'est par ailleurs exprimé sur le dossier Russie-Ukraine en déclarant, je cite, « rien ne se passera tant que Vladimir Poutine et moi ne serons pas ensemble. » Effectivement, il ne s'est rien passé. Et va-t-il se passer quelque chose? Pas de pourparlers directs, mais des négociations trilatérales sont prévues ce vendredi à Istanbul, avec d'un côté la Turquie, les États-Unis et la Russie, de l'autre côté la Turquie, les États-Unis et l'Ukraine. Une réunion avec les quatre parties autour de la même table est quant à elle totalement incertaine. Et en attendant aucune avancée entre la Russie et l'Ukraine, ce jeudi a plus été marqué par des échanges d'invectives de part et d'autre. Le président ukrainien s'est interrogé sur la capacité de la délégation envoyée par Vladimir Poutine à prendre des décisions, la qualifiant de factice. En retour, la diplomatie russe n'a pas manqué de répliquer. Sa porte-parole, Maria Zakharova, a qualifié le président ukrainien de clown, de perdant. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est lui aussi montré très dur.
Au début, Zelensky a fait des déclarations selon lesquelles il exigeait que Poutine vienne en personne. Eh bien, c'est un homme pitoyable, tout le monde le comprend, sauf probablement lui-même et ceux qui le manipulent. Puis, quelqu'un de plus expérimenté lui a expliqué qu'il ne devait pas se comporter aussi bêtement et que des négociations sont nécessaires. Nous devons donner une chance aux négociations. Personne ne garantit que tout se passera bien, sans problème. Au contraire, il y aura certainement des problèmes, comme cela s'est produit il y a 3 ans à Istanbul.
Et cette réaction du Premier ministre britannique il y a quelques instants, pour Keir Starmer, Vladimir Poutine doit payer le prix de son refus de la paix. La bande de Gaza, de nouveaux bombardements israéliens ont fait 120 morts ces dernières heures. Le nord et le sud du territoire ont été particulièrement visés. Concernant l'aide humanitaire bloquée depuis le 2 mars, plusieurs organisations affirment que les 2,4 millions d'habitants sont menacés d'une famine de masse. Une ONG soutenue par les États-Unis se dit prête à distribuer de l'aide à Gaza d'ici la fin du mois. L'ONU annonce qu'elle ne participera pas à cette distribution par cette nouvelle fondation dont les modalités, je cite, ne respectent pas les principes d'impartialité et d'indépendance. Aux États-Unis, la Cour suprême se penche sur le droit du sol, un droit protégé en principe par la Constitution, mais sur lequel Donald Trump veut revenir. Le président américain avait signé un décret aussitôt suspendu par les tribunaux. La question est donc aujourd'hui devant la plus haute cour du pays. Les avocats des deux camps défendent en ce moment même leur position, mais en arrière-plan, Lubna Anaki, c'est en réalité le pouvoir judiciaire qui est visé par l'administration Trump.
L'administration Trump le sait, remettre en question directement le droit du sol pourrait s'avérer compliqué devant la Cour suprême, étant donné que ce droit est protégé par le 14e amendement. Chose qui, au passage, n'a pas empêché Donald Trump de signer quand même un décret dès son arrivée au pouvoir pour limiter ce droit, invoquant une interprétation différente du texte de la Constitution. Mais devant les 9 juges de la Cour suprême, c'est une autre question qui est en jeu. Un tribunal de l'Ohio, de Californie ou de New York peut-il suspendre unilatéralement une décision du président Trump? Les enjeux vont donc bien au-delà de la simple question du droit du sol, car on le sait bien, l'omnipotence des juges agace Donald Trump, qui n'hésite pas à menacer ceux qui osent s'opposer à lui. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la justice a bloqué au moins une quarantaine de ses décisions. Si la Cour suprême lui donne raison, les juges perdraient donc cette capacité de blocage universel, un contre-pouvoir que beaucoup estiment nécessaire, surtout sous la présidence du milliardaire. Sauf surprise, la Cour suprême devrait rendre sa décision fin juin, début juillet. Loubna Anaki, New York, RFI.
Les temps changent en Belgique. La sortie programmée du nucléaire n'est désormais plus qu'un souvenir. La Chambre des représentants, chambre basse du Parlement fédéral, a voté ce jeudi l'abrogation de la loi de sortie votée en 2003. C'est justement cette année que la Belgique était censée sortir définitivement du nucléaire, mettre à l'arrêt ses réacteurs et ne pas construire de nouvelles centrales. Après les craintes pour l'approvisionnement énergétique lors de l'invasion de l'Ukraine, une page est définitivement tournée, Pierre Benazet.
En Belgique, c'est une page d'histoire vieille d'un quart de siècle qui se tourne. En 1999, pour la première fois depuis sa création, le parti écologiste entre dans une coalition gouvernementale à une condition, l'abandon du nucléaire. Le temps de finaliser le programme, la loi est votée en 2003. Elle prévoit, à l'horizon 2025, la fermeture des 7 réacteurs belges dans les 2 centrales nucléaires, une en Wallonie, une en Flandre. Mais quelques mois plus tard, les écologistes quittent le gouvernement fédéral et les gouvernements suivants n'auront plus besoin d'eux pour former des coalitions majoritaires. Ils s'empressent de mettre la loi de sortie entre parenthèses, ce qui avait été prévu en cas de menace pour l'approvisionnement énergétique. L'accident nucléaire de Fukushima en 2011 ravive l'opposition au nucléaire civil, mais les menaces de coupure de gaz par la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine sont passées par là. La relance du nucléaire est devenue une priorité d'un des partis de centre-droit désormais au pouvoir. La loi de sortie du nucléaire est donc abrogée et la Belgique rejoint donc l'Italie, les Pays-Bas ou la Suède, qui ont aussi décidé de renouer avec les centrales nucléaires. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Allez, direction le Festival de Cannes à présent, et après l'effervescence autour de Mission Impossible ces dernières heures, place ce jeudi au retour des films en compétition, avec notamment un premier long-métrage français, Dossier 137 de Dominique Moll avec Léa Drucker. La montée des marches s'est faite sans l'un de ses acteurs, Théo Navarro-Mussi, écarté par le délégué général du festival, Thierry Frémaux, en raison d'un signalement pour des violences sexuelles présumées sur ses anciennes compagnes. Une décision inédite, prise en accord avec la production du film, car la procédure est toujours en cours. Dossier 137, un retour en 2018 sur la crise des Gilets jaunes qui avait secoué, déchiré la France, Isabelle Chenu.
Dominique Moll est de retour à Cannes 3 ans après avoir présenté La Nuit du 12, une enquête sur un féminicide qui avait raflé 7 Césars. Avec Dossier 137, le réalisateur utilise le même procédé, une radiographie de la société française à un instant T en utilisant le principe de l'enquête policière. L'actrice Léa Drucker incarne une fonctionnaire de l'IGPN, la police des polices, chargée d'enquêter sur le cas d'un jeune homme gravement blessé à la tête par un tir de LBD lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Nous sommes en 2018 et la France est à feu et à sang. Pour maintenir l'ordre, le gouvernement fait appel à toutes les unités disponibles, plus ou moins formées, mal encadrées. Dominique Moll nous replonge avec acuité dans une actualité récente et non purgée. Il raconte l'étau dans lequel se retrouvent ses inspecteurs, leurs difficultés à mener des enquêtes sur des collègues dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre chaotique, l'empathie avec une famille de victimes qui pourrait être la vôtre, le clivage Paris-Province et les interventions politiques qui ruinent les efforts. Dominique Moll a injecté dans son film des images réelles. Léa Drucker exprime ici tout son talent en enquêtrice engagée, tentant de garder le cap par gros temps. Isabelle Chenu, Tiffany Menta, Cannes, RFI.
Dossier 137 en compétition à Cannes et qui sortira en novembre prochain en France. Et du football, le FC Barcelone sacré champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire. Le Barça a remporté ce jeudi soir le derby catalan face à l'Espagnol 2-0. Avec cette longueur d'avance, il ne pourra plus être rattrapé par son grand rival, le Real Madrid. Voilà pour votre journal sur RFI.